Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon
Amen. Béni soit Dieu. Regarde l'oreille de ton voisin. Tu dis, ouais, t'as vraiment un beau piercing maintenant. Ah non, il l'a sur le sourcil, ben dis-lui, ça te va bien, tu sais, ça égaye un peu. Et si jamais certains ont besoin du symbole concret pour pouvoir faire ça, venez me voir tout à l'heure, on va faire des piercings derrière la tente ici. J'ai jamais fait, mais il y a un début à tout, hein, c'est une autre émission. Je veux maintenant terminer en vous proposant ici des pistes de partage tout à l'heure par petits groupes de trois. Donc je vais prendre 20 minutes et ensuite on aura 20 minutes par groupe de trois pour partager. Par contre là, prenez des notes s'il vous plaît, au moins pour les questions que nous allons voir. Et peut-être la toute première question, si vous avez le temps, ce sera, raconte une repentance vécue depuis janvier. J'espère que vous êtes repentis depuis janvier. Moi, je dis toujours, la repentance, c'est la douche de l'âme. Si quelqu'un dans cette salle ne s'est pas douché depuis janvier, vous êtes prié de ne pas vous asseoir à côté de moi aux réunions, sur le plan du corps. Mais bien souvent, au niveau de nos âmes, nous entretenons moins notre être intérieur que ce que nous entretenons notre corps. Et pourtant, la repentance est une douche de l'être intérieur. Elle nous renouvelle. Et donc, c'est un cadeau à demander au Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, s'il te plaît, fais en sorte que j'ai tort. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une école de pasteurs, notre dénomination. On m'invitait, c'est la première fois, c'est vraiment une dénomination de grands théologiens. En théologie, ils sont tous super calés. Pour être pasteur, il faut toujours avoir un DESS, donc Bac plus 5, les gars ils bossent, ils étudient et tout. Mais quand on arrive dans le concret, on s'est mis par petits groupes, on a fait l'étude sur un autre livre là-bas qui s'appelle « Comment faire des disciples dans nos groupes de maison ». J'ai dit, ben, vous savez les pasteurs, je vais vous considérer comme des chrétiens normaux. Imaginons que vous soyez normaux. Et que maintenant, je vous demande, vous aussi, raconte-moi une repentance depuis 6 mois. J'en ai un qui me raconte une histoire de repentance d'il y a 25 ans. J'espère pour toi que depuis il y a eu quelque chose. T'as pas péché depuis ? Il me dit, si, hier soir. Je lui dis, mais voilà, raconte, s'il te plaît. Il m'a dit, ben, je suis parti avec ma femme, on est allé visiter des amis, elle m'a dit, prends le plan. Je lui dis, non, je prends pas le plan. C'est le truc habituel dans les couples, vous savez. Puis le gars, non, j'avais pas envie de prendre le plan. Donc, il a dit, je vais trouver. Sa femme dit, on s'arrête, fallait prendre le plan, on va demander à des gens. Tout le monde sait que la femme veut toujours demander à des gens et le mari croit qu'il a toujours le plan intégré. Alors, il était là, non, mais je sais, je vais trouver, je vais me repérer, tout ça. Puis il en voulait à sa femme, et puis à la fin, il m'a dit, ben voilà, à la fin, j'ai reconnu que j'avais eu tort de ne pas prendre le plan, et en plus, j'avais une mauvaise attitude dans la voiture, etc. Je dis, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça d'être chrétien, tu vois. Et ça, c'est une métanoïa concrète, ça se vit, c'est pas juste la théologie de Bac plus 5. Si ta théologie de Bac plus 5, ça te fait vivre dans le moins 5, dans la température conjugale, ça t'a pas servi à grand chose, ton bac plus 5, ton DESS en théologie. Il faut que ça se traduise dans le vécu. Jésus n'a jamais dit, faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je leur ai prescrit. Est-ce que Jésus a dit ça? Baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus a dit ça, oui ou non? Vous faites comme Jacques Delors au présidentiel, vous me dites oui, hein? Oui ou non? Non, Jésus ne l'a pas dit. Il a jamais dit, faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ah, mais il y a une différence énorme. La plupart de nos églises font des études bibliques. où on enseigne que Jésus a prescrit. Mais combien de gens veillent à ce que les gens observent ce que Jésus a prescrit? Je peux toujours vous enseigner sur la repentance. Si j'observe pas, si maintenant je vous donne pas l'occasion de raconter quand est-ce que tu as vécu ta dernière repentance, tu vas mourir jusqu'à la fin de ta vie sans jamais te repentir en prêchant la repentance tous les jours. Mais si tu n'as pas l'occasion de dire, mais en fait, qu'est-ce que je vis moi de ça? Alors, tu n'auras jamais l'occasion de traduire la parole de Dieu dans ton vécu, de l'incarner dans ton expérience. Enseignez-leur à incarner, à pratiquer, à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a une différence majeure entre l'enseignement et l'enseignement à observer. Parce que ici, on veille sur la façon dont on le vit, on le met en pratique. Et donc, ce pasteur m'a raconté ça, et je lui ai dit, mais c'est super, je me tourne vers l'autre, c'était le doyen de la faculté, il pleurait, il était beau comme tout. Il me dit, Philippe, tu vois, j'enseigne ici tout le temps, mais je suis totalement bloqué pour dire quoi que ce soit que j'ai vécu avec Jésus. Je ne sais pas le faire. Et il pleurait, tu as vraiment un beau cœur, je lui ai dit. Tu as vraiment un beau cœur. Ça, c'est ta repentance. De dire, mon état de cœur, tu vois, j'ai tellement étudié que tout se passe au niveau cérébral maintenant, mais incapable de faire une traduction dans mon vécu. Je suis bloqué. Là, tu es en pleine repentance. Et tu es en larmes. Et bien sûr, on a prié les uns pour les autres. Moi, j'ai raconté. Moi, je sais pas si c'est que je fais plus de gaffe que tout le monde, mais j'ai toujours plein d'histoires de repentance à raconter. Enfin, plein. J'aimerais en avoir plus, je peux vous dire. J'aimerais. Sonde-moi, ô Dieu. De temps en temps, je prie, Seigneur, je te prie pour que prochainement je puisse non seulement avoir tort, parce que ça m'arrive souvent d'avoir tort, mais au moins le reconnaître. Merci de m'enseigner, montrer une attitude différente. Et donc ça, c'est ce que vous allez partager tout à l'heure dans un petit groupe de trois. Et si tu n'as rien comme expérience, dis, prie pour moi, j'ai rien, je ne sais pas ce que je vis avec Jésus, je ne sais même pas si je vis quelque chose avec Jésus, mais tu as besoin de cela. Donc, maintenant, je vais vous partager les points suivants, et puis à chaque fois, il y aura une question. Le point suivant sur les marques des personnes que le Seigneur va utiliser au 21e siècle pour passer à l'autre bord sont les personnes que j'appelle les centrées sur l'essentiel. La différence que je fais entre les centrées sur l'essentiel et les autres, c'est que les autres, certains, je les appelle les centrées et les autres, je les appelle les excentriques. Les excentriques. Être excentrique, ça ne veut pas dire avoir une grosse voix ou être d'un tempérament coléreux ou méditerranéen. Être excentrique, ça veut dire avoir déplacé le centre ailleurs. Alors, je vais m'expliquer ici. Moi, je crois qu'un chrétien, comme une église qui vit sur les choses, qui est focalisée sur les choses essentielles, va se développer comme une personne en bonne santé. Quels sont les commandements essentiels? Si on devait les résumer. Eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Autrement dit, l'adoration. Quand tu es centré sur l'adoration, c'est bon, mais ce n'est pas le seul. Aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus, comme je vous ai aimé. Les relations. Donc quand tu es centré sur l'adoration et les relations, il peut que tu te développes en bonne santé. Si tu ajoutes encore, faites des disciples, l'évangélisation. Pour que tu sois sur l'essentiel, tu évangélises. Tu adores, tu apprends à aimer. Ça veut dire quoi, aimer? Ce n'est pas dire je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour, nanana. Non, aimer, c'est je me laisse connaître par toi et je m'intéresse à te connaître. Ça m'intéresse de savoir c'est quoi tes moments douloureux dans ta vie, c'est quoi tes plus grandes joies, c'est quoi ce qui peut te décourager, c'est quoi ce qui te redonne le moral, c'est à quoi tu carbures dans ta vie. Chercher à connaître et à me laisser connaître, ça c'est s'aimer. Donc, quand tu fais ces choses-là et que tu évangélises, c'est bon. Évangéliser, enseignez-leur à observer, ça veut dire la formation de disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ensuite, Jésus nous a dit qu'il est venu comme un serviteur et qu'il nous appelle, nous aussi, à devenir serviteurs. Ça veut dire découvrir tes dons pour servir. Pour moi, là, nous avons les cinq intentions fondamentales que le Nouveau Testament nous laisse, ou que la parole de Dieu nous laisse, pour grandir dans une vie équilibrée. Notre problème dans notre monde pentecôtiste et charismatique, c'est que nous sommes des excentriques. Ça veut dire que nous sommes centrés non pas sur l'essentiel. Arrivent les vagues de parler en langue. Bon, là, je vous parle dans l'histoire de l'Église, juste après Calvin, en 1970. 73, vers ici. Et puis, le parler en langue. Alors tout le monde, ah, le parler en langue, le parler en langue, le parler en langue, le parler en langue. Mais c'est bon le parler en langue. Je suis un fervent supporter et praticien du parler en langue. Mais le parler en langue n'est pas le centre de la vie chrétienne. Mais adore. Aimez-vous les uns les autres. Évangélise. Etc. Tout en parlant en langue dans ta vie. Ou même dans l'église. Et puis arrivent les périodes de délivrance. Alors on chasse les démons. Quand il y en a même et quand il n'y en a pas, on les imagine. Mais on chasse, chaque chrétien achète son permis puis commence à aller à la chasse. Hein? On chasse du démon, tout ce qui bouge, bam! On tire, on chasse tout. Et on racle de tous les côtés, avec les dons de discernement et les dons d'imagination, pour essayer de chasser tout ce qu'il peut y avoir. Hein? Et la mode passe, alors qu'en fait, si tu adores ton Dieu, aimez-vous les uns les autres, évangélisez, formez les nouveaux croyants, aidez-leur à découvrir leurs dons et qu'ils servent dans leurs dons. Quand il y a un démon au milieu de tout ça, tu chasses, mais jamais ne te centre pas sur la délivrance. C'est la même chose pour Israël, vous savez. Israël est important. Israël est important. Mais il peut y avoir, ça peut devenir une israélatrie parfois, dans nos milieux. La louange peut être importante, mais si on ne fait que louer et adorer, vous avez dit, mais Philippe, ça c'est, t'as dit, c'est le commandement, ça fait partie des intentions essentielles, oui, mais toute dimension hypertrophiée au détriment des autres fait que tu deviens un monstre. Comment tu t'appelles? Pardon. Étienne. Imaginez Étienne. Bon, il a une bonne tête, on va la garder. D'accord? Maintenant, on va lui mettre le corps d'une petite fille de 4 ans. Sur cette tête-là, d'un bon barbu. Le bras droit, celui d'une mamie qui a 84 ans. Hein? On va lui mettre en bras gauche, celui d'une jeune fille de 12 ans. Là, on va garder sa jambe ici, mais on va mettre un pied d'un enfant de 4 ans au bout. Et ici, sur l'autre jambe, on va en faire... Bon, on va échanger entre les deux, là. Hein? On va changer de jambe. À la fin, vous allez regarder Étienne, puis vous allez dire, mais Étienne, mais t'es un monstre. Mais t'es devenu un monstre. Eh bien, quand le corps de Christ a des dimensions déséquilibrées, une grosse louange, une petite évangélisation, un amour fraternel moyen, etc. Quand nous ne sommes pas équilibrés dans les choses essentielles, c'est pas harmonieux. Et c'est pourquoi je crois que la santé de nos églises dépend de l'harmonie et de l'équilibre entre ces différentes dimensions-là. Sans quoi, nous commençons à devenir déséquilibrés. Et ainsi, nous devenons excentriques. Quand le centre se déplace sur d'autres choses, puis est arrivé ce que vous appelez la bénédiction du Père, le vin nouveau, puis après, vous avez vu les paillettes en or ici aussi? Non? Paillettes en or, moi, il y a même eu les plumes, il y a eu toutes sortes de trucs. Écoute! Adore Dieu, que t'aies des plumes ou pas, d'accord? Que t'aies des paillettes ou pas, adore! Aimez-vous les uns les autres, avec les rires, sans les rires, avec paillettes, sans paillettes! Moi, tout ce qui vient de Dieu, je veux bien prendre. Les plumes, je les laisse pour d'autres. Mais le reste, je veux bien prendre. Bon, si les plumes viennent, pas sur moi encore, ça va, mais je m'imagine mal avec un... Certains vont croire qu'ils sont... Le pasteur est allé aux Folies Bergères, vous savez? Toutes ces choses-là, c'est en plus. L'essentiel n'est pas là. Certains disent, t'y crois, toi, à tomber dans l'esprit? On dit ça. Bah, j'y crois, si tu veux, si le gars, il tombe. Pourquoi il tombe? Bah, parce qu'il n'arrive plus à rester debout. Vous savez, c'est pas trop compliqué. Hier soir, quelqu'un m'a dit, si t'arrives à me faire tomber, ben, je dis, oh, alors là, tu sais, moi, mon souhait, c'est vraiment le Seigneur te relève. Puis je prie pour cette personne, je dis, Seigneur, élève-la en toi, puis elle tombe. Je n'ai même pas vu, je fermais les yeux. Faut jamais prier pour quelqu'un. En fermant les yeux quand on prie, je le sais, mais la personne était tellement convaincue qu'elle n'allait pas tomber, qu'elle m'a donné la foi qu'elle n'allait pas tomber, et elle est tombée. Alors certains me disaient, mais attends, il y en a qui tombent en arrière, normalement il faudrait tomber en avant pour que ça soit public. Je t'écoute, en avant, en arrière. Tu crois que l'onction vient quand tu souffles sur le micro? Je dis à quelqu'un, tu peux même cracher dans le micro, après on essuie, on désinfecte peut-être. Mais Dieu peut faire tout. L'essentiel n'est pas dans ses manières, n'est pas dans les méthodes, n'est pas dans ce surplus, ce folklore. Et si nous faisons de ces points totalement secondaires des objets de polémique en leur donnant une importance qu'ils n'ont pas, nous devenons des excentriques. Ah, t'es déjà tombé, toi? Ah, t'as déjà eu les plumes, toi? T'as déjà eu de l'or? T'as déjà ri? T'as déjà... Bon, ça fait du bien. Des fois, on se demande, Seigneur, est-ce que tu m'aimes quand je vois les trois bossus qui se bidonnent devant moi, puis moi, je suis là, tout sec comme un haricot, puis dis, Seigneur, tu m'aimes? Mais oui, je sais que Dieu m'aime. Et je vous dis ça, non pas parce que j'ai pas été visité, j'ai été tellement visité par les rires aussi, mais l'essentiel est vraiment pas là. Et si nous mettons l'essentiel sur les manifestations, nous devenons des excentriques. L'excentricité ne nous aidera jamais à gagner ce monde pour Jésus. Vous savez, la première fois que je suis rentré dans une église, vous allez tout de suite comprendre quel genre d'église c'était. Moi, j'arrivais, le gars normal, c'est-à-dire j'avais les cheveux ici, mon jean un peu déchiré, mes Clark ou mes baskets, etc. J'arrivais dedans, bon, j'étais le gars normal, puis il y a un gars qui se lève. Sûrement, ça devait être le cousin de Calvin, il était devant, deuxième rang, cheveux blancs, puis il commence. Moi, première fois que je mets les pieds dans une église. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi, j'ai dit, oulala, lui, il en connaît du monde, lui. Et puis j'ai dit, oulala, mais grave comme il est avec sa grosse voix. Puis quand il commençait à prier, je dis, oh, mais il me fait peur, hein. Puis d'un coup, au milieu, les dames ont dû être saisies d'un esprit de dinde. Je sais pas qui s'il est arrivé, mais elles ont commencé à prier. Il y avait 4-5 comme ça. Moi, je guettais le SAMU. S'il n'y a personne qui a un diplôme de secouriste dans ce lieu-là, parce que tout le monde les laisse comme ça, les pauvres, ils sont en train d'agoniser, puis je me tourne vers les jeunes, parce qu'il y avait 3 rangées, les hommes, les femmes, en tout cas, elles ressemblaient à des femmes, avant ça, et puis de ce côté-là, les jeunes. Et les jeunes, eux, ils confondaient la prière et la plongée sous-marine, parce qu'ils priaient en apnée. Ils faisaient... Vous avez tout mon effort pour reprendre, pour respirer pour eux, vous savez. J'étais tellement choqué culturellement que j'ai dit, moi, je vais au café en face. Je suis sorti au PMU. Je me suis acheté un paquet de cigarettes. Je ne fumais plus depuis 10 jours. Mais là, j'ai dit, non, mais il faut que je m'en remette. J'ai vu des gens normaux, ils faisaient leur tiercé, ils parlaient de foot, ils s'engueulaient sur la politique, ils brevaient, ils buvaient leur pastille. J'ai dit, c'est du bien d'être avec des gens normaux. Mais vous savez, quand les gens viennent dans nos églises, ils cherchent pas l'onction ou la doctrine. Ils cherchent à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble ici et qui peut essayer de m'aider à savoir comment est-ce que ça marche, les règles, et comment est-ce que dans tous ces chants et tous les trucs bizarres qu'ils font, soi-disant, Jésus serait là. Quelqu'un qui l'a vu, hein? Quelqu'un pourrait m'aider à essayer de le percevoir. Et puis quand tu vois que des trucs qui te rebutent, qui te choquent, ben, tu n'as pas envie. Moi, je vous parle comme venant de là-bas, de l'autre bord, venant dans la barque des chrétiens. Et je vous assure, ce qui compte au début, vous m'auriez dit, attention, ils sont post-millénaristes, pré-millénaristes. Attention, mais c'est des pré-millénaristes dispensationalistes, ceux-là. Tandis que nous sommes amillénaristes. Je dis, mais c'est grave ces maladies-là, parce que moi, j'ai eu que les angines et les grippes de temps en temps. Mais tu sais, vraiment, les histoires de doctrine, ça me concerne pas. T'arrives et tu cherches. Est-ce qu'il y a des gens qui me ressemblent et qui pourraient essayer de parler avec moi pour m'aider à savoir comment je peux connaître Jésus? Et donc là, nous aurons des églises saines. Et je voudrais vous encourager à revenir sur l'essentiel. N'oublions pas le centre. Laissons de côté toutes les choses secondaires. La vie charismatique est un plus ou un surplus. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'adorer. L'essentiel est de nous aimer les uns les autres. L'essentiel est d'évangéliser, de former les nouveaux croyants et de les aider à découvrir leurs dons pour qu'ils servent. Ensuite, 5e marque, les brancher sur la présence de Dieu. Alors, je vous ai parlé de ce livre-là tout à l'heure. Effectivement, être branché sur la vie, la prière est née en Genèse 4, 26, quand l'homme a réalisé qu'il était mortel. Il a commencé, il a appelé son fils Enoch, je veux dire mortel. C'est alors qu'on a commencé à prier sur la terre. On a commencé à invoquer Dieu quand on a vu qu'on était mortel et qu'on avait besoin de la vie. Donc, la prière, c'est chercher à se connecter sur la vie. C'est chercher la présence de Dieu plus que tout. De chercher à ce que le Seigneur nous connecte, à recevoir l'énergie d'en haut. Certains aujourd'hui, quand ils se baladent avec leur portable, cherchent toujours comment je peux me connecter sur Internet. Il y a une connexion meilleure. Comment je peux me connecter sur le ciel? Qu'est-ce que je fais pour être connecté sur le Seigneur chaque jour? Bien, ça, c'est une petite question que tu vas avoir tout à l'heure, dans le petit groupe de 3. Qu'est-ce que je fais chaque jour pour me connecter sur le Seigneur? Comment est-ce que je cherche à me connecter sur Dieu chaque jour? Comment est-ce que je cherche à me connecter sur Dieu chaque jour? Ensuite, point suivant, la marque suivante, ce sont les ressourcés. Alors, je veux parler ici de 3 sortes de ressources. Les ressources spirituelles, c'est vrai. les ressources des dons spirituels, se connecter sur Dieu. Et nous avons besoin de spirituel de Dieu. Nous sommes rentrés au 21e siècle, dont Malraux disait « il sera spirituel ou ne sera pas ». Le cliché de la France de raison est derrière nous, ça a disparu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans le monde spirituel. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football pratique l'astrologie et parfois il dit qu'il lui arrive de choisir les joueurs en fonction de leur thème astral. Au début, je n'étais pas très content qu'il soit nommé, puis je suis allé écouter ça hier midi aux infos. J'aime beaucoup le football. Puis quand j'ai vu que c'était lui, j'ai dit « ouf ». Puis après, j'ai dit « mais en fait, c'est un gars, il est ouvert au monde spirituel ». Alors j'ai commencé à prier pour lui. Je dis « Seigneur, donne-moi l'occasion de le rencontrer ». Un jour, je l'ai croisé dans un aéroport. Je dis « Seigneur, donne-moi l'occasion de le rencontrer de nouveau. Je veux lui dire que j'apprécie sa soif spirituelle, mais que dans le monde spirituel, il y a toutes sortes de chemins, mais il y en a un qui a dit « je suis le chemin ». Et j'aimerais pouvoir l'aider, pas d'une façon méchante et provocatrice, mais l'aider, parce que nous sommes dans un monde spirituel aujourd'hui. Donc, ces ressources spirituelles, par exemple, même pour vous, vous avez besoin de développer un esprit fort. Qu'est-ce que vous faites pour développer un esprit fort? Qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer spirituellement et avoir au-dedans de vous un esprit fort? Parce que sinon, nous ne faisons pas le poids face au monde spirituel de ténèbres, au poids spirituel de ténèbres qui est là. Les ressources humaines ne doivent plus être gaspillées dans l'Église. Il y a tant de dons, tant de témoignages enterrés, des gens qui ne disent rien, des gens qui ont lu Marc 16 comme ceci, ils imposeront leurs fesses aux chaises et ils attendront le retour de Jésus. Alors qu'ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc il n'y a aucune vertu charismatique dans le fait d'imposer les fesses aux chaises. Il y a autre chose à faire. Chacun a un certain nombre de dons. L'Église consiste à aider chaque personne à trouver ses dons et à libérer les ressources humaines. Il y a des talents inouïs dans une Église. Imaginez seulement si chacun mettait une heure de sa profession, gratuitement au service de la communauté chrétienne et du quartier ou de la ville. Une heure de soins gratuits pour le dentiste, une heure de soins gratuits pour le médecin, pour l'infirmière, une heure de comptabilité gratuite pour le comptable, une heure d'informatique gratuite. Simplement comme ça, on met tout ça dans une corbeille et on vient trouver les gens du quartier pour leur dire voilà, on est là. Et puis nous, ce qu'on aimerait, c'est servir. Il y a des ressources humaines totalement inexploité dans l'Église. Et ce 21e siècle aura une Église dans laquelle les chrétiens vont arrêter d'imposer les fesses aux chaises. Mais ils vont commencer à mettre en action, en œuvre, ce qu'ils ont dans les mains. Multiplier nos 5 pains et nos 2 poissons pour nourrir des foules. Imaginez l'impact que ça va avoir. Les gens autour de nous vont dire « Ah, mais les chrétiens, finalement, ça sert à quelque chose. » Nous, on croyait que c'était juste des gens qui chantaient « Alléluia ». De temps en temps. Mais là, ça sert à quelque chose. Effectivement, il y a des ressources humaines à libérer. Et il y a, ne vous fâchez pas, des ressources financières à libérer. Je suis identifié depuis ma conversion avec le monde protestant et j'habitais la vallée de la Garonne. Et donc, j'ai lu un livre de Janine Garrison qui avait écrit « Les protestants du Midi » 1558-1598, je crois, et dans lequel elle relate que le manque de finances dans les églises au temps de la réforme, le manque de finances a fermé plus d'églises que la persécution. Le manque de finances a fermé plus d'églises que la persécution. Et c'est aujourd'hui un des obstacles majeurs au développement des églises fortes dans notre pays. Nous avons besoin d'avoir des églises fortes. Nous avons besoin d'avoir un pasteur de louange et l'adoration qui équipe les croyants comment adorer, qui équipe les musiciens, qui équipe les croyants à se développer dans l'adoration. Nous avons besoin d'avoir un pasteur des relations qui fait non seulement les préparations au mariage, qui suit les jeunes, qui accompagne les enfants au moins, mais qui aussi aide pour les relations d'aide, etc. Nous avons besoin d'avoir un pasteur à plein temps qui équipe les croyants comment faire pour témoigner, évangéliser, comment prendre l'apéro avec tes voisins sans les vacciner contre l'évangile et pourtant témoigner. Et ça, c'est des choses qu'il faut libérer. Nous avons besoin d'un pasteur à plein temps pour la formation des croyants, formation biblique, théologique, formation de disciples, etc. Nous avons besoin d'un pasteur à plein temps pour gérer ses talents, ses ressources humaines, ses heures de profession que tu vas donner. Qui va gérer l'offre et la demande? Le minimum dont nous avons besoin, c'est de 5 pasteurs à plein temps pour avoir une église qui tient la route et qui devient forte. Donc pour cela, nous avons besoin aujourd'hui de ramener à la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes et la générosité qui va nous faire prospérer. Béni soit Dieu. Alors, quels sont les dons que j'ai identifiés pour mettre au service des autres et au niveau finance? Comment est-ce que je contribue à bâtir l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que j'apprends à semer financièrement dans les dîmes et les offrandes? Je dis, non Philippe, on ne parle pas de ça. Non mais je ne vais pas vous demander de vous déshabiller. Gardez votre pantalon. C'est pas du nudisme qu'on fait ici, c'est juste parler. Comment est-ce que nous mettons en pratique la parole qui nous dit de donner nos dîmes et de semer abondamment? Parce que nous avons besoin de porter sur nous les marques qui vont nous qualifier pour l'autre bord. Et je termine avec ce dernier point maintenant, et ça introduira le sujet demain matin. Les personnes qui vont faire la différence pour passer à l'autre bord au XXIe siècle sont les personnes qui sont envoyées pour gagner. Envoyées pour gagner. Envoyées d'abord parce que on sent qu'ils sont reconnus, mandatés de Dieu. Dans notre pays, il y a quelque chose d'assez fort de non seulement l'anticléricalisme, mais il y a quelque chose d'assez fort sur l'anti-chef. On a eu un roi, on lui a coupé la tête. Et depuis, on aime bien élever des gens, comme ça ensuite on peut mieux les descendre. On les amène au tapis, n'est-ce pas Bernard? Et on les élève et puis ensuite on les descend. C'est ce qu'on aime faire dans ce pays. Mais bien souvent on me dit, Philippe, comment ça se fait qu'il y a tel miracle quand tu vas en Afrique? Alors, la réponse traditionnelle dit, c'est parce qu'ils ont la foi. Bon, écoutez. Je suis allé dans des églises en Afrique, des églises anglicanes, des églises de toutes sortes. L'avant-dernière fois que j'étais au Burundi, j'étais dans une église, et j'ai dit, je voudrais faire une semaine des sessions sur une école de guérison divine. Le pasteur m'a dit, non, t'as pas un sujet sérieux? Je dis, c'est très sérieux. C'est très profond. Alors, on a commencé à le faire, puis le premier soir, on a commencé à prier pour la guérison des malades. D'ailleurs, hier soir, un monsieur a été guéri ici. Il sautait, le pied avait une fracture et le Seigneur l'a guéri instantanément. Et je donne gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait à lui seul, toute la gloire. Dieu est vivant, il se manifeste ici aussi. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, bon maintenant on va prier pour les malades. On va commencer à voir, donc rallonger les jambes, les paralytiques ont commencé à se lever. Et la fille du pasteur, je l'ai connue quand elle était enfant. Et elle m'a dit, tu sais Philippe, quand tu as commencé à dire, on va voir les paralytiques se lever, les aveugles voir, etc. Je dis, ah non, je veux pas voir tonton Philippe dans la confusion, je suis parti. Donc c'était vraiment une église qui avait pas de foi au niveau de la guérison. Pas de foi. Mais d'où vient qu'il y avait tant de guérison? Parce que des tumeurs de 4 kilos ont disparu. Tout était vérifié médicalement. En fin de semaine, j'avais le médecin-chef de l'hôpital au séminaire sur la guérison. Ce qui m'a dit, écoutez, vous m'avez fait passer toute la semaine à vous remplir un certificat médical. Je vais apprendre maintenant comment ajouter ça à ma profession. Il m'a venu. Puis le gars s'est donné à Jésus ce jour-là. Et il a suivi le dernier atelier pour comment guérir les malades avec tous les responsables de groupes de maison. Béni soit Dieu. Il fait de grandes choses. À Jésus toute la gloire. À Jésus toute la gloire. Mais le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les signes. Hein? Et donc il y a des signes qui sont les signes du royaume. Et là où le royaume de Dieu est reconnu, là où le roi est reconnu, là où on honore la marque du roi, les signes du royaume arrivent. Mais là où au lieu d'honorer le roi, on est en train de contester les marques du trône, les autorités du trône. Voici les signes qui accompagneront la démocratie. Ils contesteront, ils discuteront, ils ont une opinion différente, ils feront de la polémique, etc. Mais voici les signes du royaume. Les malades seront guéris, les démons seront expulsés, etc. Je voudrais vous dire, quand je suis arrivé à Bujumbura, la capitale du Burundi, à l'aéroport, 500 personnes étaient là pour nous accueillir, de l'église, avec des cadres, des commissaires de police, des gens, etc., qui avaient pris leur journée de congé spécialement pour nous accueillir. Et ils disaient, béni soient les envoyés qui viennent au nom du Seigneur. Ils parlent de qui? Moi? Vous savez, les petits gars, quand on arrive en France, on dit, mais pousse-toi là. Quand vous passez la douane en Afrique, on dit, c'est un pasteur. Alors, les gens, vous savez, on vous laisse passer avec honneur. Vous arrivez en France, si vous dites que vous êtes pasteur, prenez une tarte. Presque. Ou en tout cas, vous êtes, ah, c'est un pasteur, méfiance. Secte ou, vous savez, tout de suite méfiance. Mais là, on honore. Et quand on est arrivé, mais un tel honneur est là. Pourquoi? Pas à cause de nos personnes, mais ils ont compris. Le royaume de Dieu se manifeste par des personnes qui sont des canaux, qui ont été élevés comme sur des trônes spirituels, Et quand nous honorons ces trônes spirituels, le pouvoir du trône suprême descend. Et les signes du royaume sont là, les envoyés. Et je voudrais vous dire, facilitez la tâche de vos pasteurs, de vos prêtres, de vos conducteurs de groupes de prière, de vos conducteurs spirituels. Soyez derrière eux à 100%. Il y a trop de gens dans ce pays qui arrêtent le ministère parce qu'ils disent, ils n'ont pas le temps de s'occuper des incroyants. Il faut juste qu'ils gèrent toute la contestation qu'il y a à l'intérieur de l'église. Il y en a marre un peu, d'accord? On va changer les rôles. Parce qu'on a compris, on a cru que l'église c'était un truc dans lequel les chrétiens sont sur les gradins. Puis il regarde le pasteur au milieu dans l'arène, puis oh, pas mal, moi j'aurais fait mieux, va te faire voir, non je suis pas d'accord, etc. Oh, 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 la Bible me dit pas ça. La Bible me dit que le pasteur est un entraîneur qui forme les croyants à faire l'œuvre du ministère. Donc pasteur va sur la touche, fait descendre ses grands chefs des arènes là. Tu dis, les chrétiens, venez, c'est à vous maintenant. Je vous apprends comment on évangélise. Je vous apprends comment on adore. À vous de jouer. Puis là, tu regardes et tu dis, finalement, tu peux faire un peu mieux aussi. Hein. On va changer les rôles parce qu'on va nous-mêmes faire l'œuvre du ministère. Mais soyez derrière vos pasteurs parce que les signes du royaume vont arriver avec cela. Et je termine en ce verset qui dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter, courez de manière à gagner, à être des vainqueurs. Paul dit, je cours vers le but, Philippiens 3, 14, pour remporter le prix, je cours pour remporter le prix, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Oh mais moi je suis humble, je voulais être un vaincu. Non, c'est pas de l'humilité, c'est de la stupidité. Parce que tu sers le plus que vainqueur au-dedans de toi. L'humilité ne consiste pas à se dénigrer soi-même, mais à accepter la mesure que Dieu nous donne. Et demain, nous allons parler de cela, non pas d'un triomphalisme, mais de la vraie victoire en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Ne savez-vous pas qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc, dernière question, courir pour gagner. Comment comprenez-vous cette parole? Courez de manière à le remporter. Comment, dans votre cœur, comment vous répondez à cette parole de dire, c'est vrai, je suis dans l'église pour remporter le prix. On est là pour gagner. On veut être une église de vainqueurs. Pas le triomphalisme facile, mais on veut gagner pour Jésus. On veut gagner des âmes. On veut remporter la victoire sur les puissances de l'ennemi. Nous sommes là pour gagner. Nous sommes là pour remporter le prix. Nous sommes dans le camp du plus que vainqueur. Courez de manière à le remporter. Amen.